Depuis 2022, les ateliers et les conférences de Vinapogée sont enregistrés pour que vous, amateurs de vin, puissiez écouter et réécouter afin de vous divertir et apprendre au fil du temps histoire, expérience, gourmandise, savoir. Manuel Perrondet, meilleur sommelier de France 2008 et MOF sommelier 2011, président de Chef-d'œuvre, nous aide à remonter le temps. Il présente et commente des vins jeunes et à maturité de trois vignerons de Vinapogée. Le domaine Gavotti en Provence, le Clos Venturi en Corse et le domaine du Vieux Télégraphe à Châteauneuf-du-Pape.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Écoutez, c'est un plaisir de pouvoir partager évidemment ce moment de partage autour de la maturité et d'évolution. Donc je me présente rapidement, je m'appelle Manuel Perrondet, je suis sommelier, vous l'avez compris. Ambassadeur des vins à maturité depuis quelques années maintenant, puisque j'ai travaillé chez Taïwan et j'ai eu la chance d'avoir une cave absolument merveilleuse dans ce restaurant étoilé qui avait, sachez-le, pour guideline de mettre des vins uniquement à 10 ans de maturité sur sa carte. Donc c'est un long héritage de Jean-Claude Vrina qui m'a donné un petit peu comme vous, je l'espère, le goût des vins à maturité. On va passer une petite heure ensemble. L'idée, c'est de pouvoir parcourir un petit peu les domaines qui sont face à vous. Alors il y a un petit changement de programme par rapport à un des domaines qui n'avait pas bien compris qu'il fallait amener quelques bouteilles pour cette masterclass, mais on s'est rattrapé, on a même mieux encore, donc c'est parfait. Vous avez surtout une majorité de rouges dans le salon, mais là on a amené aussi pas mal de blancs, donc vous allez pouvoir voyager. Et l'idée est bien sûr de pouvoir saisir des messages à maturité, enfin de l'évolution avant, après, pour deux des domaines qu'on va déguster. Et puis après de comprendre aussi l'impact de la minéralisation des vins, on va en parler un petit peu. Quand les années sont passées, même dans des appellations un peu solaires, puissantes, Châteauneuf-du-Pape, puisqu'on va descendre au Vieux Télégraphe à la fin de cette dégustation. Donc on va commencer la dégustation avec le Clos Venturi. Vous avez vu Manu Venturi peut-être déjà qui est présent sur son stand. Il a été royal puisqu'il nous a permis de trouver rapidement pour ce masterclass un 2021 et un 2013. 2013, on va en parler un petit peu assez proche, mais qui in fine, vous allez voir, sont de véritables rayons de soleil maintenant. Ensuite, on va déguster des vins de Provence, du domaine Gavotti, la cuvée Carandon. Alors, également, on fait honneur évidemment à ce nouveau domaine qui vient à Vinapogée présenter ses vins. Ceux qui ont un petit peu vécu des vieux millésimes de Gavotti, des vieux blancs, savent qu'il y a un peu de magie dans ces vieux rôles quand ils évoluent. Donc, on va en parler un petit peu. On va essayer de les comprendre jeunes et on va essayer de voir un petit peu vieux. Quand je dis vieux, c'est quand même 89 qui vous attend, donc c'est pas rien. Et puis après, donc, on fera ce petit tour chez Daniel Brunier au Vieux Télégraphe, puisque nous avons donc des Vieux Télégraphes blancs et rouges du même millésime 2007. Un millésime, rappelez-vous, un peu écrasé par le soleil, mais qui aujourd'hui, quand même, chante plutôt bien dans le verre. Donc, on va essayer de décortiquer tout ça, mais surtout de comprendre un petit peu au travers de cette dégustation quels sont les phénomènes d'évolution pour chaque cépage, chaque terroir, bien entendu avec l'adéquation millésime, qui est très importante. La manière dont les vins sont structurés dépend éminemment de la climatologie et pas que dans les régions fraîches du nord. On a toujours tendance à penser que les effets millésimes sont plus marqués dans les climats tempérés. C'est pas vrai. Il y a autant d'écarts de style et de trame dans les climats solaires ou ensoleillés que ailleurs. Il y a des vrais effets millésimes encore dans le Languedoc et partout ailleurs, là où il fait naturellement un petit peu plus beau et plus chaud. Donc voilà. On va commencer cette petite dégustation donc, avec les vins de Manu Venturi. Donc, je commence par le Corse de l'Assemblée. Je vous propose de garder le même ordre à chaque fois. On met à gauche le vin jeune et puis à droite le vin à maturité. Là, vous allez déguster Clos 2021, ici. Donc, je ne vous refais pas de pourquoi, du comment, mais bien sûr, nous avons affaire à ce cépage Vermentino qui fait évidemment la gloire de cette magnifique région, pour, entre autres, parce qu'il y a bien sûr d'autres cépages endémiques qui sont très intéressants à aller creuser maintenant. La Corse, un petit mot quand même sur la Corse, et un témoignage de sommelier qui a vu vraiment, vraiment progresser cette région de manière spectaculaire. La Corse en 20 ans, c'est totalement incroyable. L'évolution de la région et surtout l'évolution de grands noms, de très bons domaines et de grands faiseurs sur la Corse est à mon sens la plus incroyable qui soit. Peut-être que je dirais que c'est la région la plus dynamique en France. Évidemment, il y a eu un phénomène qui est intéressant. Les appellations sont petites, les appellations comme, vous connaissez bien sûr, les appellations comme patrimoniaux, Ajaccio, etc. Mais certaines, vous noterez qu'elles sont relativement petites, à part patrimoniaux qui est une appellation un petit peu plus vaste, un peu plus grande. Le reste, ce sont des appellations assez niches. Et ce qui est intéressant dans les appellations niches, vous ne le noterez pas que forcément en Corse, vous le noterez aussi dans d'autres régions, c'est qu'il y a une forme d'émulation, on hisse vraiment vers le haut tout ce qui se passe avec des domaines qui discutent, qui échangent beaucoup, qui partagent beaucoup de leur culture et de leur savoir-faire. Et évidemment, il y a eu des beaux noms qui se sont évidemment dégagés. Il y a eu évidemment des grands noms. Vous avez les familles Arena, Abatucci, vous avez Gérard Courrèges, chez Vacelli, etc., qui ont écrit un petit peu l'histoire assez successful de cette région et qui aujourd'hui mérite évidemment l'attention de tous les passionnés et de tous les... voilà. Donc on commence avec cette cuvée de Manu Venturi. L'idée, c'est de comprendre un petit peu le prisme de ce cépage Vermentino dans sa première jeunesse. Avec un petit mot sur 2021, vous avez tous en tête l'été 2021. C'est le seul été où on a fait... En fait, il a plu tout le temps. Il a fait très froid. C'est une vendange, pour la majorité de l'Hexagone, si on ramène, qui est assez proche de 2013, le millésime que je vais vous servir derrière. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va découvrir en fait le prisme du Vermentino ici, dans un millésime qui a de la tension, de la fraîcheur. Et puis, on va découvrir un autre millésime assez tendu et frais, assez tardif. Les vendanges de 2013, par exemple, en moyenne en France, c'était octobre, début octobre. Vous vous rappelez un petit peu à part 2021, on a renoué avec ça. Il n'y a pas eu de vendanges d'octobre en France depuis les années 90. Donc, c'est important de souligner ça. Donc, les deux millésimes qu'on va... je check juste la deuxième bouteille pour que je vous serve le 2013. L'idée, c'est donc de comparer, évidemment, les deux vins avec, ce même profil de millésime, cette même trame, la manière dont ils vont un petit peu venir se livrer à vous, on va en parler, mais surtout sur des sensations sapides et salivantes qui vont avoir un petit peu le même pédigré de naissance. Ensuite, on va voir évidemment comment l'évolution passe sur tout ça. Bon, c'est très beau, on a de la chance, ces deux bouteilles sont superbes, c'est parti. Donc on va bien sûr parler de deux, trois phénomènes. Le premier phénomène que vous allez pouvoir comparer dans les blancs, évidemment, c'est le phénomène d'évolution aromatique. Ça, on va en parler et on va essayer de comprendre un petit peu d'où on part au départ pour évoluer dans le temps. Deuxième phénomène qu'on va essayer de mesurer, c'est le phénomène de minéralisation. Donc, quelque chose qu'on doit un petit peu à Jacques Puiset, feu Jacques Puiset, qui nous a légué une histoire un petit peu riche, chimique, une analyse plutôt chimique et donc... on va dire une interprétation de l'évolution du vin qui nous permet de comprendre que le vin reste évidemment une matière vivante qui se sculpte, qui s'affine au fur et à mesure que les années passent. Et on va essayer de comprendre ça. Et je vais vous expliquer un petit peu sur, en tout cas moi, la conclusion que j'en fais sur ces phénomènes d'évolution. C'est la manière dont en fait les vins qui naissent parfois en climat chaud évoluent et surtout des fois des vins qui naissent en climat froid évoluent. Et surtout après on pourra évidemment tirer la ligne de cette réflexion sur des années chaudes, des années froides, quelles que soient évidemment les régions. À partir du moment où vous avez en fait envie de faire vieillir des vins ou de servir des vins à maturité, ou peut-être même en tant que professionnel de conserver des vins et de les servir plus tard, ce qui est important, c'est d'avoir évidemment les trajectoires en tête de certains types de millésimes. Ce qui est intéressant dans les deux millésimes qu'on va déguster, c'est qu'on est sur des bases froides en fait. On est sur des années pas trop solaires, où le glycérol est peu prononcé. Et moi, ce que j'aime dans ces profils-là, c'est qu'évidemment, on a la fraîcheur naturelle de jeunesse. Mais surtout, après, on va plus vite vers des messages de minéralisation et d'évolution des vins. Je ne vais pas tout à fait terminer, mais bon. Je vous en servirai un petit peu après si vous avez besoin. Hop, on essaie de débuter rapidement la dégustation. Voilà, hop. Donc, évidemment, là, je vous emmène en Corse pour comparer d'abord deux plaisirs. Le premier est un 2021 de Manu Venturi. Je ne vous refais pas trop le pitch, Vermentino, terroir de grès, élevage, cuve, pas de bois. Nicolas, il n'y a pas de bois sur cette cuvée-là. Je vous inviterai à goûter si vous êtes vraiment fondu de Corse, absolument, et ça je parle, je pense que c'est mon plus gros choc de sommelier sensoriel de ces 5 dernières années. Il faut goûter Altare Blanc, pour moi c'est un truc totalement fantasmagorique et vous devez absolument déguster cette cuvée si vous voulez cocher une case dans une vie d'amateur, dans les très très grandes cuvées de Corse du moment. Pour moi, c'est le plus grand blanc que j'ai goûté récemment dans cette île de beauté. Donc on reprend un petit peu ici la lecture de ce Vermentino jeune qui a ici une apparence, vous avez vu la différence de chromatique entre les deux est évidemment très parlante. Vous avez, c'est un vin que 2021 a été cueilli sur le fil de la fraîcheur, pas trop de glycérol, pas trop de matière appuyée, on n'est pas du tout sur des années trop corsées, trop solaires, trop concentrées non plus. Et ce qui donne évidemment un peu d'élan et de prisme floral et printanier à cette lecture du Vermentino. Vermentino, c'est un, on l'appelle un petit peu le Roll. On va vous dire que ça sera le Riesling du Sud, si vous voulez, parce que c'est vrai que les phénomènes d'évolution dans les Vermentino sont intéressants. Belle colonne vertébrale acide, beaucoup de potentiel floral et aromatique. Fleurs blanches, fleurs de citron, fleurs d'oranger, des choses comme ça qui sont assez marquées quand on est assez jeune. Et là, vous avez encore un petit peu le prisme pseudo-fermentaire, encore un petit peu de l'évolution. 2021 n'a pas commencé à évoluer un petit peu. On a vraiment cette idée en fait, de la floralité maximale et du raisin blanc et un petit peu de lime qui est à l'intérieur. Mais très, très peu évolué. On a affaire, bien sûr, à cet équilibre-là. Donc, c'est intéressant de faire cette petite comparaison avant-après, puisque, bien sûr, vous allez pouvoir évidemment mesurer rapidement les phénomènes de minéralisation et d'évolution. Vous êtes avec moi là sur ce caractère un peu fleur d'oranger. Moi, je suis un petit peu. On va dire que le Vermentino est un cépage de type aromatique. Vous le savez, ça fait partie. Il y a d'autres cépages de type aromatique en France, le Sauvignon, le Gewürztraminer, le Viognier, bien sûr, et autres. Mais sur les extrêmes jeunesse, on a un petit côté des Vermentino qui, je ne vais pas dire qu'il muscate un peu, mais ça tire un peu. En tout cas, moi, ça m'évoque ça comme sensation. Et derrière le prisme encore un petit peu jeune et va dire ce caractère un petit peu juvénile du message, vous avez évidemment la fraîcheur intrinsèque ici. Première chose, ce qui est intéressant à mesurer, c'est que vous n'avez pas du tout de puissance alcool. Quand vous mettez le nez dessus, vous ne dites pas « bon, je suis dans le sud, c'est écrasé, etc. » Ça, c'est vraiment intéressant. Et puis derrière, beaucoup de sensations salivantes. Équilibre alcool, à votre avis ? Ça fait 13,5. Et si vous goûtez des millésimes comme 16, 14, qui sont des années aussi assez froides dans l'équilibre de Corse, ce que j'aime, c'est qu'évidemment, on arrive à préserver des équilibres à 13, 13,5 des fois, avec des très très bonnes sensations salivantes. Ici, ce n'est pas forcément un millésime aussi concentré, incroyable que... moi, j'adore 2019 en Corse, je trouve que c'est une très grande année dans l'île de beauté, parce que tous les messages sont là et la concentration est là. Mais là, on est plus sur un millésime d'élan, de fraîcheur, de spontanéité, un profil très estival et vraiment très, très charmant, avec, vous l'avez compris comme ça, une attaque en demi-corps, des sensations bien salivantes, un vrai prisme salin, on n'est pas que acidulé, on est aussi un petit peu terroir, hein, c'est un vin qui est marqué évidemment par cette empreinte un petit peu sapide et saline. Et puis, quelque chose de très évanescent, pas trop de glycérol, pas d'amertume. Les choses que je vous inviterai à mesurer dans les vins qu'on va déguster, c'est, comme on déguste souvent aussi des vins du Sud, voilà, parce que c'est essentiellement le Sud qu'on va déguster, c'est le phénomène sur l'amertume. L'amertume, c'est le glycérol parfois, la puissance alcool. Et puis après, ça dépend un petit peu aussi de la manière dont on a pressé, le pressoir, ce qu'on a utilisé comme technique de vinification. Moi, je crains l'amertume quand elle est trop prononcée. Par contre, je trouve que c'est un très très bon balance, une très très bonne balance quand on a des fois un peu de glycérol et autres. Donc, il faut évidemment avoir en tête le phénomène, pas simplement d'acidité ni de minéralité, mais aussi là où se pose l'amertume dans l'équation et la réflexion autour de ces vins. Pas mal. On prend... Vous aimez ? Je ne sais pas, hein, histoire de goût, bien sûr. Moi, je suis assez fan, je vous l'accorde. Hop, je vais terminer avec ça. On va parler du 2013 maintenant. Alors, je vais un petit peu vite parce qu'on est timé. Il faut qu'à dans une heure, soit sorti de là. Donc, si vous avez des questions, il faut y aller franco. Hein. Donc, évolution chromatique, bien sûr. Vous êtes passé d'un brillant pâle à un brillant doré. Vous avez ça dans le verre. Ça nous amène à une réflexion sur l'évolution chromatique et aromatique des vins quand ils ne connaissent que de la cuve. Ça, c'est une bonne réflexion parce qu'on a aussi des vins qui passent sous bois. On connaît évidemment la dimension et l'étoffe que peuvent apporter certains contenants. Le bois en est un, mais maintenant on a beaucoup d'autres techniques, des œufs, des cuves ovoïdes, plein de choses qui vont nous faire un petit peu évoluer, des cuves en grès, vous verrez beaucoup de choses. Moi, ce que j'aime dans la préservation évidemment d'un message, d'un vin qui a été élevé en cuve au départ, c'est le fait qu'on ait gardé un petit peu le côté étincelant et pur du message du fruit, même si celui-ci c'est un peu confit, c'est-à-dire qu'on reste précis. Quand on a des élevages sous bois, on amène autre chose. Alors on amènera une texture, un côté structurant, beaucoup plus de persistance parfois, mais par contre, on perd une petite partie originelle du message et du fruit. Donc la réflexion est ici, bien sûr, et cette cuvée, elle est là pour témoigner évidemment de l'évolution de vins qui n'ont connu évidemment d'évolution, enfin d'élevage ou de structuration qu'en cuve. Si vous faites beaucoup de voyages et beaucoup de vignobles dans le vignoble, enfin visites dans le vignoble, vous verrez c'est assez flagrant dans les différentes pensées, les manières dont les gens vinifient. On peut structurer avec le bois jeune, on peut apporter plein de choses. Par contre, on peut émerveiller des fois avec que la cuve. Et moi, au départ, j'étais un peu imperméable au vin qui faisait que de la cuve. Je les trouvais trop simples, monochromiques et autres. Mais en fait, plus mon palais évolue, plus je bois des vins et plus je préfère digeste. Et en fait, au fur et à mesure que j'évolue dans ma pensée, je préfère finalement des vins qui ont un petit peu moins de structure apportée par l'élevage. Bref, je vous propose de passer à la deuxième dégustation, ce deuxième Clos Venturi 2013. Donc là, vous avez l'œuvre du temps. Petit rappel, simplement sur le phénomène de minéralisation des vins. Tout ce qui naît avec une structure acide gagne en grâce, qui va perdre en sensation acidulée de jeunesse avec le temps qui passe. C'est la promesse des Riesling, des Chenins qui s'élargissent avec le temps, des vins, des Sauvignons qui vont gagner un petit peu de gras également. Tout ça, globalement, il faut imaginer comme ça que vous êtes sur une pyramide très pointue et tous les vins de structure acide vont gagner en grâce, qui vont perdre en sensation d'acidité. L'acidité, analytiquement, est toujours là. Mais par contre, on va gagner en confort et en texture. Prenez un jeune Chenin bien traçant sans malo, et vous prenez le même vin 7-8 ans plus tard, vous aurez gagné en onctuosité, en texture. Autre phénomène intéressant, quand on est sur des vins de structure moins acide, mais plus large, plus glycérique, on va le voir tout à l'heure avec le télégraphe, c'est le contraire, on sculpte. On part de quelque chose de large, de confort, de dense, et après, on taille comme ça. Les années qui passent vont exprimer beaucoup plus les sels minéraux, on va sculpter un petit peu de la sensation de glycérol, et on va retrouver un petit peu le fil conducteur du sous-sol. La fameuse minéralité, appelez-la comme vous voulez, mais en fait, ce lien intrinsèque au lieu et au sol est des fois un tout petit peu enfoui quand on est sur des messages puissants avec des maturités assez hautes dans des climats chauds. Là, on va regagner un petit peu plus dans le relief, d'abord beaucoup plus salivant, au fur et à mesure que les années ont passé, mais on va récupérer le sel. Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que même si un blanc, vous le trouvez un peu chaleureux, puissant, par exemple, moi, un jeune vieux télégraphe, je me rappelle de ces années que j'ai vu naître quand j'étais jeune sommelier, au départ, je ne les trouvais pas extraordinaires parce que je ne les trouvais pas immédiats, je ne les trouvais pas assez salivants, je trouvais qu'ils n'avaient pas assez de rythme. En fait, vous allez voir que c'est toute cette équation qu'il faut voir un petit peu à l'envers. Donc, deux phénomènes, l'acidité haute s'élargit, elle baisse en sensation, on gagne en grâce, qu'on perd en acidité. Et des phénomènes inverses pour les vins qui ont du gras au fur et à mesure que les vins vieillissent. C'est un peu la même chose pour les rouges, je vous en parlerai tout à l'heure. Le temps sculpte un petit peu tout ça. On retrouve évidemment la colonne vertébrale, l'acidité, le sel, et puis après la magie aromatique. Dans le 2013 qu'on va déguster là, l'idée c'est de comprendre un petit peu déjà l'évolution aromatique. Alors là on plonge bien sûr dans ce que les agrumes de Corse sont meilleurs à nous offrir, le cédra, les petites notes d'agrumes confits, de plantes, de notes, vous savez, ce côté un peu racinaire, un peu gentiane aussi, qui vient tranquillement. On a ce caractère un petit peu mellifère, mielé, qui fait toujours partie un petit peu de l'équation. Et on a aussi ce petit phénomène d'évolution plus prononcée, mais des fois, quand on goûte des vieux vermentinos corses, et je parle sous, évidemment, la bienveillance de Nicolas, qui en boit beaucoup plus souvent que nous, ça peut même tirer des fois sur des notes qui vont tirer vers les hydrocarbures, comme ça, des fois la truffe blanche, des notes comme ça qui sont vraiment excitantes. Il faut en boire des vieux pour comprendre vraiment la complexité. Et je vous invite évidemment à réfléchir, ne serait-ce qu'en sentant ce clos blanc, à la manière dont on vous fait tourner les vins de votre cave sur la Corse et ses blancs corses. Alors en bouche. Vous voyez que c'est pas si sphérique que ça. Par contre, on a quand même un côté tapissant qui s'est installé. Un petit côté un peu miel frais, miel de plante. Très très bonne sensation salivante. Et évidemment, un petit grip également de terroir. Peut-être un petit peu moins lisible, je pense, dans les 2013, aujourd'hui, que ce qu'on a aujourd'hui dans les vins de Manu Venturi. Je les trouve de plus en plus, en tout cas, imprimés par le lieu qui les fait naître. En tout cas, dès 2013, quand on les a en tête, d'un point de vue structurel, ils sont en demi-teinte, demi-puissance. Ce n'est pas des millésimes très, très concentrés. Mais par contre, moi, j'ai pas mal de plaisir avec cette cuvée, qui est déjà un petit peu sur sa phase de sagesse et de maturité. Est-ce que ça vieillit encore beaucoup plus, ce genre de millésime? Bonne question, je pense que oui. 5-6 ans sans problème. Après, il ne faut évidemment pas trop pousser le bouchon sur ce genre de millésime trop trop loin, dans la mesure où des fois on perd un petit peu également en étoffe et par rapport à ce genre de cuvée. Mais comprenez que là, pour la cuvée Leclos, qui n'est pas totalement, on va dire, l'aboutissement de parcellaire de Manu Venturi, vous avez déjà ici des messages assez engagés sur l'évolution, certaines complexités, et puis ce phénomène assez lisible en fait de l'évolution autour du Vermentino. Donc on a ici, bon, vraiment, moi c'est comme ça que je les reconnais des fois quand on en sert à un vieux à l'aveugle, ce caractère un petit peu cédra confit, plantes et autres, c'est ça qui me raccroche en fait, en tout cas des souvenirs de vieux Vermentino. Et cette bouteille est là pour évidemment témoigner de la manière dont ils évoluent. Est-ce que vous appréciez? Ça vous plaît? Pas mal, hein? Vous avez le droit de dire non, hein? Personne n'a raison, hein, dans le vin, hein, je rappelle. Moi, j'ai un petit côté. Je ne suis pas encore sur l'hydrocarbure parce que j'ai des millésimes en Corse, des vins corse, des fois des vieux blancs corse qui m'amènent un peu plus sur la dimension de ces éthers aromatiques qui font un peu plus penser. Le côté un peu gazeux de la truffe blanche, des fois, je les ai. Mais sur mes équilibres, je ne sais pas, peut-être que Nicolas pourrait témoigner. Vous avez des millésimes qui truffent un peu en Corse, comme tu sais, les 8 peut-être ou...
Il y en a deux à côté, il y a le 11 et le 7.
Ouais, ça truffe blanche. Ah ouais, bah, c'est ça. Ben voilà, c'est un petit peu là. Il faut que vous passiez après cette dégustation au stand de Manu Venturi, si vous ne l'avez pas fait, pour mettre des mots sur des stands sur l'évolution un peu truffée de ce. Je me posais la question si au domaine les 2008, parce que je me rappelle que les 2008 en France truffent beaucoup. C'est souvent lié en fait à des phénomènes. Alors je sais, peut-être qu'en Corse ça change un petit peu, mais je me rappelle pour mon témoignage personnel, Bourguignon, Palais du Nord et autres. Les 2008 en France truffent beaucoup parce que maturité, acidité, enfin on avait acidité, vent du nord, enfin un peu comme les 96 à l'époque, c'était ces années où vous savez, vous sortez au printemps là, enfin pardon, à la rentrée, il fait beau et frais. Pour les raisins, ça c'est merveilleux parce qu'il y a du vent, on cristallise l'acidité et à la fois on a de la complexité qui arrive et de la maturité. Et souvent les millésimes cet écart maturité-acidité-truffe, bon, on le voit dans certaines régions, plus que d'autres, mais si vous mettez le nez dans les Loires 2008, ça truffe à un kilomètre. Hein. Bref, voilà pour la première dégustation. Deuxième acte qu'on va... donc on va changer évidemment de terroir, on va rester évidemment sur la même promesse de cépage, mais exprimée différemment. On va comparer la cuvée Clarendon 2019 de Gavotti, que vous avez ici. Il y a une très belle série de vins blancs et rouges à faire. Je vous invite à aller voir le stand. On va essayer de comprendre d'abord une chose ici. C'est un millésime assez incroyable, 2019. D'ailleurs, on l'a un tout petit peu enterré d'un point de vue notoriété, même si enfin, les acheteurs, ceux qui achètent du vin ou les journalistes n'ont pas raté le truc. Mais peut-être que la crise du Covid nous a un petit peu... un peu masqué la sortie de ce millésime-là qui, avouons-le, dans le sud de la France et Provence-Corse, pour moi, a fait naître en blanc, en rouge, en rosé, des vins exceptionnels. C'est une question de concentration, d'équilibre, maturité, acidité. Vous voyez, c'est juste une question de... On passe, pour moi, à un autre étage de construction que ce qu'on a, par exemple, juste dégusté avant, où on est en forme de plaisir. Et quand on juge un vin jeune, et quand on veut, évidemment, imaginer sa trajectoire, on pense aussi à sa naissance et à tous ces équilibres qui vont se paramétrer et s'imbriquer les uns des autres pour faire des vins de longévité. 2019, sincèrement, vous goûtez le Clos Blanc du Clos Saint-Vincent, vous goûtez cette cuvée de Gavotti, mais si vous descendez même partout ailleurs, vous dégustez les 2019 en Corse, en blanc, c'est superbe. Donc il faut absolument avoir ce benchmark, entre guillemets, de construction de jeunesse sur un millésime vraiment très complet, tant dans la maturité, dans la concentration et dans la capacité qu'il a eu à faire passer du sel. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. On y va avec le premier vin que je vous sers, c'est 2019. Même schéma, hein. On va pas chercher de richesse aromatique exogène. Un beau Vermentino Roll, ici on l'appelle comme ça en Provence, vous le savez. Avec des terroirs un petit peu différents. Beaucoup de calcaire sur la partie nord du vignoble qui accueille une partie de cette cuvée. Alors évidemment, c'est intéressant de reparler alors du réchauffement climatique, des problèmes des uns et des autres. Mais s'il y a bien une région qui a essayé d'embrasser un petit peu la chirurgie de la maturité, c'est bien la Provence et le Languedoc-Roussillon, parce qu'eux, ils ont connu évidemment ces phénomènes bien avant que tout le monde s'en empare. Aujourd'hui, on sait que planter nord, sur des terroirs ventés, avec des expressions évidemment préservées du fruit, permettent d'obtenir des équilibres assez merveilleux. Et il faut être conscient que tout ça mérite réflexion. Vous avez de plus en plus de Clarendon, domaine de Gavotti, 2019. Vous avez raté le premier ? Je vais vous ramener les verres, ne bougez pas. Donc, le deuxième vin qu'on déguste, vous avez arrêté le premier aussi ? Ok, d'accord. Merci. Je vous ramène. Tac. Et donc, il est retardataire. Ok. Donc, je termine le service ici pour cette première bouteille. Je vous invite à plonger un petit peu dedans. Et puis derrière, on va enchaîner sur le 1989, ce qui est assez rare. Hein. Enfin, goûter des très très vieux rolls de Provence comme ça, je peux vous assurer que, en tant que sommelier, j'ai pas coché souvent ça. Mais ça nous amène à une réflexion donc sur les vieux millésimes qu'il faut permuter. Quand on a goûté des vieux Simone Blanc, quand on a goûté des vieux les premiers Bellet du Clos Saint-Vincent, et enfin tous ces millésimes. Tous ces vins, en fait, qu'on n'aurait pas imaginé encore il y a 20 ans ou 25 ans, dans le mindset du consommateur ou même de la presse, de tous les acteurs du monde du vin, on n'avait pas le regard posé sur le potentiel d'évolution de ces régions, avouons-le. On était émerveillés d'en goûter, mais on ne faisait pas l'effort de les garder et on ne faisait pas l'effort de les mettre au rayon des vins de demi-garde, voire de garde. Et ça doit changer, parce que de toute façon, les régions... Beaucoup de régions sont en train de nous échapper d'un point de vue prix, vous le savez. Mais surtout, je ne suis pas sûr que les courbes d'évolution de ces vins qui sont inaccessibles aujourd'hui soient aussi fanatiques et incroyables que ce qu'on pourrait... Je suis bourguignon, hein, je défends la Bourgogne depuis tout jeune, mais aujourd'hui, je trouve que les courbes d'évolution des blancs de Bourgogne sont pour beaucoup en dessous de ce que j'escompte, en tout cas en termes de complexité et de plaisir. Et je préfère en tout cas, moi, en tant que passionné et personne qui consomme du vin, mettre aujourd'hui de l'argent dans des bouteilles d'autres régions où, en fait, on peut avoir des merveilles. Voilà. Et la Provence, la Corse font clairement partie des orientations que je prends. Donc, je vais vous faire goûter le 89 côte à côte, puis après, on commente les deux, l'un à côté de l'autre. Okay. Alors, je vais prendre celle-là, je check juste. Je veux qu'on parle de la même chose, donc j'y vais tranquille. Ok, on va faire un truc. Je vais vous servir les deux bouteilles, elles sont un petit peu différentes. Okay. Comme ça, vous goûtez un 89 qui me semble vraiment top. Et un 89 qui est un peu en dessous. Mais la bouteille que je vais vous servir, donc je vais mettre des petites doses, et puis derrière, comme ça, on compare deux bouteilles. Pour moi, on a une bouteille vraiment parfaite, qui va vous amener vraiment dans une complexité. Vous allez voir, c'est assez fou. Donc, les vieux Clarendon, ça fait partie de ces écoles, des grands vins de Provence qui évoluent, on le sait. Autour de 10 ans, c'est déjà bien. Mais si vous allez dans l'audace, ben vous avez ce que vous allez découvrir là. Hop. Là, vous avez vraiment la première bouteille que je vous sers, là, est vraiment la meilleure des deux. La troisième est over the edge. C'est le problème du bouchon, du liège. On le sait, il y a des évolutions qui sont plus ou moins bénéfiques. Et ça nous ramènerait peut-être à une réflexion, mais ce ne sera pas pour ce masterclass-là, sur la capsule à vis, sur plein d'autres systèmes de bouchage, sur le reconditionnement des vins, sur tout ça. Le bouchon est tombé dedans, je m'excuse, mais les bouchons n'ont pas été changés. Donc là, vous avez un 89 qui va vous amener dans la complexité d'un vieux millésime du domaine. Mais même sur des notes aromatiques qui vont vous plonger. Alors, je vais vous écouter sur ça. Si le spectre aromatique de ce vin vous fait penser à une région, à un type de vin ou à un type d'évolution, mais je vous attends un petit peu là-dessus. Moi, j'ai une petite idée en tête et je vous dirai, je la partagerai avec vous pour que ce soit évidemment comme ce masterclass évolue sur le partage et sur l'échange. Je vous amènerai les Clos Venturi juste après là parce que il faut que je m'occupe du service. Vous êtes garé. Ça, c'est le premier. Tac. Voilà. 19 est bon. Hein. Moi, j'avais acheté le 2019 avec bonheur. Et je me suis dit que c'était bien de le remettre un petit peu dans les verres. Là. Même si, avouons-le, on n'est pas dans la saisonnalité, je trouve, du 2019 qui correspond. Je commente les deux vins, après je vous sers la bouteille, je vous ferai passer la bouteille, vous la ferez passer si vous voulez, la bouteille qui est un petit peu moins en dessous, qui est un peu en dessous. Hop. Alors regardez, on vient c'est marrant parce qu'on switch d'un Vermentino Corse à un rôle ici provençal. Sur un millésime qui est, vous voyez la manière dont le vin est construit, le vin naturellement ici a une concentration naturelle de millésime. C'est-à-dire qu'on a une enveloppe structurelle et charnelle qui est immédiatement un petit peu concentrée. On sent que c'est un vin qui a plein de paramètres qui rentrent de tous les côtés. L'acidité, bien sûr, l'extrait sec beaucoup plus corsé. Sans faire de mauvais jeu de mots sur la Corse, sur le caractère un peu plus séveux et on va dire bien acidulé et ça, qui tire comme ça, avec quand même un peu plus de chaleur en sensation que le Clos Venturi blanc, on sent un petit peu plus la richesse et la générosité, mais c'est un peu la caractéristique de ce millésime, c'est-à-dire qu'il a des épaules, de la concentration, du sel et de l'acidité. Et donc pour moi, 2019, partout en France, dans l'Hexagone, il n'y a que les Sauvignons qui pour moi ont beaucoup trop souffert de la maturité, de la surmaturité de l'année. Mais sinon, c'est l'année, franchement, je signe demain pour des années comme ça, vraiment avec plaisir. Et vous voyez, donc, ce Gavotti Clarendon 2019 en est le témoin. On a cette entrée de... Aromatiquement, on a bien sûr quitté un petit peu la phase fermentaire aromatique, ça c'est normal, puisque ce vin arrive bien sûr à presque 4 ans à l'heure où on se parle, 3 ans et demi. L'idée, c'est de se dire que le Vermentino devient un tout petit peu moins aromatique, on perd la frange aromatique de ce cépage ici, on recentre un petit peu les messages sur l'agrume, sur les plantes, sur des notes comme ça d'infusion. Après, on commence à lire aussi la dimension minérale au nez. J'ai un côté caillou derrière. Et en bouche, on en parlait tout à l'heure, l'amertume, un tout petit peu plus poussée. Là, on finit un petit peu peau d'agrumes confite, un peu pomelos, qui va amener un petit peu de profondeur à la salivation. Parce que la salivation est bonne, mais derrière, ce qui va un tout petit peu étirer la bouche et la rehausser, avant le côté un peu chaleureux et sudiste qui va revenir, c'est ce concentré d'agrumes. On parle du 89 si vous voulez maintenant. Hop. Ça vous fait penser à quoi au nez ? Nico, ça vous fait penser à quelque chose ?
À de beaux accords.
Ah oui ? Moi, ça me rappelle des nez de vieux champagne. Je trouve que le nez. Vous savez, c'est né des champagnes de maison des années 80, 70, là. On a en fait une complexité un peu biscuitée, et à la fois un peu de miel, un caractère fruit sec. Je trouve que le nez me rappelle vraiment ce fond de vieux champagne. Vous avez ça aussi ou pas ? Hein ? Vous n'auriez peut-être pas pensé comme ça, mais moi, quand il m'est arrivé souvent dans des soirées de servir des vieux champagnes, quand les clients n'avaient pas tout à fait terminé la bouteille, on terminait ça à l'office avec les copains sommeliers, et... Un champagne qui n'a plus de bulles, ça sent un peu ça, je trouve. C'est beau, hein ? La complexité, le bouquet est vraiment... Alors après, on peut essayer de rechercher les messages du Vermentino, mais sincèrement, je pense qu'ils sont complètement enfouis. Hein ? À l'aveugle, ça, Nico, pas facile. Hein ? Mais avouez la beauté, là, la magie en fait, du temps. On perd l'identité de la naissance variétale, on perd l'identité provençale, clairement. Par contre, on rentre dans une autre dimension, hein, quelque chose qui fait un peu planer, et qui emmène ailleurs. Je trouve que c'est la magie du vin et surtout la magie de ces vins à maturité. Je ne suis pas sûr que les bouteilles soient toutes clean. Je vous laisse passer cette bouteille, si vous voulez. C'est la deuxième, ça prend un petit témoin. Je vous laisse passer le temps que moi j'enchaîne avec les vieux télégraphes derrière. Et je vais vous servir ici au fond là, parce que vous n'avez pas goûté ça, les vieux millésimes, les deux, les avant-après du Clos Venturi. Je vous laisse vous servir ceux qui sont arrivés un petit peu après, comme ça ici. Allez-y, je vous laisse passer. Pendant ce temps-là, moi je fais l'introduction du vieux télégraphe. Bon, là on est allé vraiment dans l'extrême, hein, parce que évidemment quand on va chercher des Provences de cet âge, on attend, enfin c'est un petit peu osé, mais je trouve que ça fait partie évidemment de l'équation. Sans aller jusque-là, moi ce que je vous dis, c'est entre 7 et 15 ans, un clarandon blanc, ça fait vraiment le job. Ça donne des accords superbes. Il faut travailler le citron confit, le cédrat, il y a plein de préparations méditerranéennes autour des agrumes. Là, c'est la saison bientôt, février, c'est vraiment la saison où il faut imaginer toutes les associations. Mais il y a tout un univers. À déployer. On parlera un petit peu des accords mésévins s'il nous reste quelques minutes après, et si vous avez envie de parler un peu gourmandise autour de ces bouteilles. On va terminer ce flight, cette dégustation comparative avec donc les vins de Daniel Brunier au vieux télégraphe, que vous connaissez tous et toutes et tous. Je n'ai pas besoin de représenter le domaine, même si évidemment ça mérite quand même un petit flash. On est tout près du plateau de l'Acro, vous savez que c'est un des endroits où les galets roulés sont illustrés par, évidemment, ces paysages que vous connaissez de Châteauneuf. On va déguster un joli blanc de 2007. Ce qui est intéressant dans les blancs du Rhône Sud, c'est qu'ils vont vraiment illustrer ce qu'on a dit tout à l'heure. On part d'une matière large, ample, dense, que le temps va sculpter. Évidemment, on s'appuie sur la colonne vertébrale, puisque minérale. Donc, sur les galets roulés que vous voyez à Châteauneuf-du-Pape, en dessous, il y a du calcaire, il faut le savoir. Et ça participe un petit peu à l'équilibre et à la magie des vins de l'évolution de Châteauneuf-du-Pape. Ce n'est pas par hasard que Châteauneuf-du-Pape, et j'aimerais dire ça parce que les fondations de nos appellations d'origine contrôlée, c'est 1936, d'accord ? Mais c'est 1920 dans la tête des Châteauneuvois. Et quand ils décident de classer l'appellation Châteauneuf-du-Pape et surtout de la de la porter comme une des premières appellations à l'INAO, leur réflexion est de dire « nos vins s'améliorent dans le temps ». Bien sûr, tout ça a été démontré. Donc, l'appellation est vaste, il y a 3200 hectares, il y a plein de terroirs différents, il y a des communes, des reliefs, il y a des empreintes de terroirs très fortes, différentes, qui ne permettent pas de comparer un Châteauneuf-du-Pape à un autre facilement. Mais par contre, ça nous permet un peu de comprendre, et quel que soit évidemment le secteur sur lequel le vin naît, la manière dont la matière, en fonction de sa structure glycérolique et de sa puissance, évolue. Ça, c'est quelque chose que Châteauneuf nous lègue. C'est-à-dire, on est capable de dire que c'est Châteauneuf-du-Pape quand c'est à l'aveugle, et quand les années passent, on n'est plus capable de dire que c'est Pierre-Paul-Jacques, que c'est Beaucastel, que c'est Arias, que c'est peut-être peu importe. Enfin, on est capable peut-être, parce qu'on goûte souvent, il y a des styles qui sont quand même un petit peu différents. Mais à un moment ou à un autre, quand on remonte à 20, 30 ans, un vieux Châteauneuf-du-Pape, pour dire quel domaine c'est, ou quel terroir de Châteauneuf c'est, good luck. Ou alors vous en goûtez beaucoup, 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 beaucoup. C'est peut-être un peu différent quand on a peut-être plus de Mourvèdre au départ, comme Beaucastel et autres. Mais... Donc, c'est intéressant cette appellation parce qu'elle a cette capacité à vieillir que les appellations limitrophes n'ont quasiment pas. Hein. C'est ça qui est merveilleux dans l'appellation d'origine contrôlée, c'est que, bon, un vieux Gigondas, ça tient, c'est super, un vieux Vaqueras, ça tient aussi, mais ce n'est pas la même construction, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même densité au départ de messages, et il n'y a que le temps qui révèle tout ça. Donc c'est un peu ce qu'on va essayer de lire dans ces deux derniers vins qu'on va déguster. Là, on ne fait pas avant-après, on fait côte à côte, blanc, rouge, du même domaine. Okay. Check les deux bouteilles. Une bouteille qui est plus précise que l'autre. On y va avec 2007 blanc, je vous sers là. Donc, premier vin que je vous sers là, 2007, année écrasée par le soleil. On va dire que son pendant à la décennie 2010, c'est 2017. Vous vous rappelez de la vendange 2017 à Châteauneuf ? Il fallait trier un peu les raisins qui étaient séchés, confits et autres. C'était une année vraiment très chaude. En vallée du Rhône méridionale et un petit peu dans le bassin méditerranéen, c'était une année puissant, beaucoup de chevaux. À l'époque, c'était ça les grandes années. La presse les adulait, on les recherchait, c'était ceux qui étaient les mieux cotés, les plus notés. On cherchait plus la puissance et la structure qu'autre chose à l'époque, on aimait souligner le caractère athlétique supérieur du millésime. Mine de rien, c'est des bouteilles qui ont parfois bien évolué, mais il y a quand même beaucoup d'années chaudes et très solaires et très structurelles qui n'ont pas si bien évolué que ça. Et j'aimerais témoigner de ça, parce qu'on ne s'éclate pas toujours, ça dépend de quand est-ce qu'on a vendangé surtout, et des équilibres qu'on avait. Moi j'ai beaucoup de Châteauneuf 2007 qui sont déjà un peu foxés, évolués, des fois, voilà. Il y en a qui sont très très bons, on va déguster là. Mais le problème d'un millésime trop solaire, c'est que des fois il est trop confit, quoi, hein, tout simplement. Et que la matière est fanée avant même d'être épanouie. Et ça, j'aime pas trop ce genre de choses. Alors, 2007, l'année dernière, ceux qui étaient là, on avait fait un 2007-2011 de Beaucastel côte à côte. Ça commence à chanter pas mal dans le verre. Mais il faut aimer, évidemment, les années un petit peu puissantes comme ça, de naissance. À vous de voir un petit peu quel équilibre vous fait vibrer. Je pense que le plus important, c'est que vous ayez en tête ce que vous aimez le plus, surtout. Donc là, un assemblage de grenache, clairette, roussanne, un petit peu d'ourboulin. Le tout, évidemment, fermenté dans des demi-muis. Peut-être et un peu de foudre. Maintenant, il y a plus de demi-muis au domaine du vieux télégraphe, mais l'équation de l'époque, c'était ça. Foudre et petit foudre et 500 litres. Globalement, on s'en fout un peu, parce que quand ça a passé 15 ans, on ne sent plus trop la dimension tactile ni aromatique du bois. Mais cette bouteille qu'on goûte ensemble, là, vous avez goûté la deuxième bouteille de 89. Vous voyez, on n'est pas dans le... Elle a un côté un petit peu plus olé olé, je trouve. Donc, ici, il faut savoir que la jeunesse d'un télégraphe blanc, c'est l'amande douce, l'aubépine, les fleurs, une petite patine très légère des demi-muis. sur le temps qui passe, on commence à rajouter des lignes et des millefeuilles. Moi, je commence à plonger un peu dans l'anis, dans le côté miel, dans la caractère un peu amandé également, mais voilà. J'ai un côté un petit peu fenouil qui vient tranquillement chatouiller le fond du verre avec le miel de fleurs. On commence à avoir un petit peu d'agrumes confits, mais l'agrume sans l'acidité, c'est-à-dire qu'on aura la peau de l'agrume confite. C'est un phénomène qu'on peut retrouver dans pas mal de Châteauneuf blanc, notamment quand il y a de la clairette, pas mal de clairette à l'intérieur. Je trouve que les évolutions, en tout cas aromatiques, me font penser à ça. Et puis, ça ne pétrole pas, mais ça commence. Vous savez, ça, vous aurez souvent des notes de vieux Riesling sur certains Châteauneuf, vous les aurez. Quand vous goûtez des vieux Rayas, des choses comme ça, des vieux blancs de clairette ou de grenache clairette, ou choses comme ça, ça peut fonctionner. Là, on est un petit peu plus épaulé. Alors, tous les Châteauneuf blancs qui ont un peu de roussane, qui accueillent un peu de roussane, ils ont un peu plus de sphère. On n'a pas ce côté pétrolé qui peut partir au nez. Mais ceux qu'on a un petit peu moins, ceux qu'on n'a pas du tout, ça fait ça. Vous aimez le nez de ça ou pas? Pas mal, hein? Là, on fait aujourd'hui, c'est une journée quasiment de snob parce que on goûte que des trucs à maturité. Mais globalement, il n'y a pas beaucoup de monde qui enchaîne des vieux millésimes comme ça à la maison sur des collections comme ça. Hein. Mais voilà, ça fait partie de du caractère très spécial de cette journée, c'est d'offrir évidemment la possibilité de goûter des vieux vins. Moi, j'ai un petit côté tranquillement quand il évolue. Un petit caramel au lait qui s'installe comme ça dans le fond du verre qui souligne la fermentation sous bois, mais structure assez large quand même, hein, assez puissante. On sent qu'il y avait du glycérol, on sent qu'il y a de la chaleur. Par contre, vous avez vu la manière dont la colonne vertébrale centrale est là? C'est pas qu'un vin qui a de la puissance alcool, c'est un vin qui a de la puissance concentrée et assez structurel. Et au milieu, il y a les piliers et l'acidité. Il y a un petit peu de sapidité. Ce n'est pas immensément long et ce n'est pas incroyablement persistant de longueur, mais sincèrement, il y a un côté spirituel qui arrive derrière la puissance alcoolique qui est quand même très très beau sur ce Châteauneuf blanc. Est-ce que vous voulez rajouter des commentaires? J'ai l'impression de faire un monologue sans fin là. Si vous avez envie d'intervenir sur des choses et partager vos émotions, c'est maintenant. Je vous rappelle que c'est pour du partage qu'on fait ça, rien d'autre. Ou si vous avez des questions surtout, n'hésitez pas. Il me reste 5 minutes. C'est long, hein? Et à la fois, ça passe trop vite. Bouteille un petit peu froide, je vous invite à réchauffer un tout petit peu dans le creux de votre main la bouteille parce que ils avaient mis le carton. Ah pardon monsieur, je mets là. Ils avaient mis la bouteille avec les blancs, donc c'est pas très indiqué. Merci. Donc là, vous allez déguster de Châteauneuf du Pape 2007 de Daniel Brunier. Donc là, c'était un millésime. Il y a 40% de grappe entière sur ce de vendange là. Il en faut, hein. Dans des années comme ça. La grappe entière, ça aère, ça floralise, ça descend un petit peu le degré alcool, ça structure, ça fibre, ça va donner un petit peu de grain et de mâche à ces cépages qui, bon, des fois, dépassent les 15,5. Hein. C'est un peu le problème du grenage dans les années solaires. La bouteille que vous avez dégustée est super, elle a un vrai début d'évolution, mais à la fois, elle a gardé la densité et la concentration de son année. Et on va en parler un petit peu. C'est un bon 60 de grenache là, avec du mauvais de Syrah, un tout petit peu de cinsault. Il faut savoir que les années chaudes, le cinsault, il n'aime pas trop. Le cinsault, il n'aime pas. Je ne sais pas si vous avez goûté les cinsault en 2017 dans le Languedoc, Terrasse d'Élise & Co. Il faut absolument que vous compreniez ça. Il y a des cépages comme le cinsault qui peut apporter un côté chambol, un côté fin, un côté tout ça aux assemblages. parce que c'est la promesse de ce cépage-là. Mais par contre, quand il est trop rôti, ça apporte du sec, du cuit, du pruneau, des notes complètement cuites. C'est un cépage qui ne supporte pas la médiocrité. Hein. Donc il faut que ça soit le Cinsault, ça... il faut y aller à la petite dose. Quoi. Après, il y a des cuvées géniales de Cinsault. Si vous aimez les vins évanescents, floraux, etc., c'est un cépage sur lequel vous pourrez vous concentrer un petit peu dans la vallée du Rhône méridionale. D'ailleurs, si vous pensez à Châteauneuf-du-Pape et que vous voulez goûter un Cinsault dominant, il faut goûter la cuvée Beau-Renard du château de Bois-Renard, qui fait en 2018 a fait son premier millésime sur 2000 bouteilles de 75% de Cinsault dans un truc. C'est super bon. Si vous aimez les Châteauneuf infusés avec des messages, des puissances diffuses et des structures de demi-corps avec des nez... Là. Voilà. Donc là, on va plonger un petit peu, vous allez voir, dans le côté à maturité d'un grand Châteauneuf. Hop. Je vais aller chercher la deuxième petite bouteille là, parce que sinon je vais vous servir tous les dépôts. C'est 2007 toujours, oui. On finit avec 2007. Hop. Alors, je termine au fond. Alors évidemment, là, on est dans la saison. Hein. Les grands, on parlera deux minutes des accords mais des vins, mais il faut servir ces grands châteaux neufs assagis par le temps, dans la période de la truffe noire, dans la période de la chasse, dans la période de viande de goût, dans la période où il fait froid, où globalement, à part boire, on n'a rien à faire. On y va, je vous en parle un petit peu. Dans le verre de ce château neuf, vous avez évidemment la robe légèrement évoluée de ça. Vous avez cette densité qui commence à s'éclaircir, ce rubis qui s'éclaircit, mais qui tire un peu dans le frangé sur l'évolution. Automne, humus, petit réveil automnal des saveurs, côté cèdre, tabac, j'ai côté un peu tomate séchée aussi, poudre de tomate, qui pour moi est un marqueur du grenache à maturité. Petite volatile, je pense, mini, mais un peu là quand même. Petit côté artistique acidulé qui apporte du peps au nez. Ça reste jeune et à la fois on sent que c'est mûr. Enfin, on sent que ça arrive à maturité, c'est ça que je veux dire. Il y a une forme de 2007, c'est un peu comme ça que je les déguste, moi. C'est OK, on commence à donner un peu du potentiel d'évolution de complexité, mais on n'est pas totalement dans la complexité. Son pendant, 2011, par exemple, en Châteauneuf-du-Pape, qui est une belle année solaire également dans la décennie 2010, est beaucoup plus épanoui aujourd'hui. Pour ceux qui ont goûté Vieux Télégraphe 2011, c'est une bouteille qui chante beaucoup aujourd'hui. Deux phénomènes sur ce vin. En bouche, le premier, c'est qu'on sent que c'est solaire et que c'est puissant. Mais la sucrosité commence à disparaître. Ça, c'est la magie des terroirs sudistes de beaux pédigrés, qui, au fur et à mesure que les années passent, vont perdre en sensation, et c'est là que je vous ramène à la première réflexion tout à l'heure, on sculpte un petit peu une matière large. Le côté édulcoré, puissant, un peu sucré des matières sudistes, va ici gagner évidemment en gainage. On va dire qu'on va centrer un peu la matière avec le temps, et on va recentrer un petit peu, vous le voyez, l'attaque de bouche paraît un tout petit peu dense, etc., mais après, très vite, on récupère le fil de la sensation d'acidité. Le caractère plus fibreux, on sent que la vendange entière a structuré ce vin, parce qu'il y a un caractère voilà, un peu plus ligneux, séveux, qui anime un petit peu le cœur de bouche de ce vin. Et à la fin, on arrive sur des tanins qui montent un tout petit peu la garde, mais qui sont d'une manière assez diplomate et qui sont relativement fondus aussi, et qui vous disent, en fait, on est encore un peu là, mais c'est quand même bientôt la retraite. Et c'est bien marrant de parler de ça cette semaine, d'ailleurs. Ils se disent qu'ils sont encore là un petit peu pour monter la garde. Et c'est ce que je ressens, moi, en tout cas, sur ce 2007, qui, à mon avis, est au début de sa phase de maturité, loin de l'apogée totale, à mon sens, mais j'aime bien. Est-ce que vous aimez ? Bon, écoutez, il est moins une, j'ai fait dans les temps. Trois petites conclusions pour terme général, si vous voulez. On a fait deux flights sur des nouveaux domaines qui sont venus renchérir un petit peu l'offre de Vinapogée, mettre en perspective le Vermentino, appelez-le le rôle si vous voulez en Provence comme vous voulez, dans son évolution, c'est évidemment regarder le potentiel de ces lieux et de ces terroirs qui sont assez évidents à mon avis dans les courbes d'évolution. Il faut savoir composer avec les années selon ce que vous aimez d'un point de vue structurel. Il y a des millésimes plus froids que d'autres, des millésimes plus équilibrés que d'autres. Moi, je sais ce que j'aime. À vous de découvrir ce que vous aimez également. Il faudra composer un petit peu avec les années. Et je vous invite à regarder un petit peu le glycérol, la puissance alcool, la manière dont le vin est cintré, la manière dont le vin a de l'acidité, pour réfléchir à la manière dont vous construisez un petit peu vos achats sur ça, ou sur votre analyse. La 2019 était aussi une belle illustration de ce qui est pour moi un millésime assez structurellement parlant, très intéressant. Et vous aurez ça dans tous les phénomènes de l'Hexagone. Les chenins sont incroyables en 2019. Goûtez les grands vins de Saumur, goûtez les grands vins de Mont-Louis-Vouvray. C'est vraiment un millésime qui va nous emmener très très loin. La Bourgogne a fait des vins, la Champagne, les bases 2019 déjà c'est énorme. Mais les millésimés 2019 quand ils vont sortir, ça va être stratosphérique. Donc, vous avez en fait ici un millésime vraiment structurel. Peut-être que les Syrah du Rhône-Nord seront un poil trop mûrs pour moi, un peu trop concentrés. Ils se sont fait un peu prendre pour les Syrah de Côte-Rôtie, je trouve. C'est un petit peu chaud, mais sinon le reste. Châteauneuf est très structurel, très puissant. Bordeaux a fait des très grands vins, surtout la rive gauche. Je trouve, je préfère les vins de Cabernet sur 19 que voilà. Mais ça me paraît évidemment être une année à noter dans les annales pour ça. 89 était un ovni, hein. Voilà, mais ça nous amène aussi à des réflexions différentes. Et puis, le dernier, Châteauneuf, ben, vous avez ici ce phénomène assez parlant, je trouve, de la matière riche, puissante, sculptée par le temps, qui perd en sensation de gras et de sucrosité ce qu'elle va gagner en verticalité, en sensation sapide et salivante, avec évidemment le fondu de la matière qui vient derrière, les tanins, évidemment, avec. On parle d'un petit accord mésévin, les deux, trois petites choses. Il faut, avec les grands Vermentino, franchement, l'agrume confit, c'est une rampe olympique, mais il y a plein d'autres accords merveilleux à imaginer. Je pense que les vins de Corse sont beaucoup plus marins dans l'esprit et de mariage que ce qu'on peut l'imaginer de nature. Il y a beaucoup de très très belles préparations à imaginer autour. Et je trouve que ce qui est intéressant quand on goûte des vieux Corses comme ça, c'est qu'on peut inverser l'ordre de service des vins. On peut servir des fois ces genres de très grands vins au début de la série des grands vins que vous allez pouvoir imaginer, ou un peu après si vous avez vraiment envie de piquer la curiosité. Mais je pense que c'est intéressant de ne pas voir les vins de Corse comme simplement un climat solaire sudiste et autres. Pour moi, c'est beaucoup plus profond que ça, et c'est ce que j'aimerais vous inviter à réfléchir. Tout ce qui aura un relief herbe, chlorophyllien, aromatique, plantes aromatiques et autres, sera très très bien. Hein? Aussi tout ce qui a du gingembre. Langouste, beurre de gingembre, herbe, rôti au four, un grand Vermentino Corse avec une râpée de cédrat, je ne fais pas de dessin. Voilà le genre de truc qu'il faut avoir en tête pour les mariages mévins. C'est aussi évidemment des partenaires de choix pour beaucoup de fromages et qui sont évidemment... Voilà, quand ils ont des herbes, quand ils ont des plantes, quand ils ont plein de choses. Je pense bien sûr au fromage corse en général, mais surtout après, toutes les autres préparations dans lesquelles vous pourrez travailler des fromages avec des agrumes, des contrastes herbacés, des herbes, des épices. Évidemment, c'est porte ouverte. Sur Châteauneuf, là, vous avez affaire à un Châteauneuf blanc comme ça. Petit premier conseil. Un, c'est un vin qui n'est pas structurel sur l'acidité. Et déjà, vous pouvez servir tout ce qui est un peu chaud. Il y a des accords mésévins qui sont difficiles à faire, c'est tout ce qui est un petit bouillon, tout ce qui est un peu liquide, tout ce qui est un peu, vous savez, quand on a une raviole qui baigne dans un petit bouillon, nanana, ça, en accord mésévin, brossez-vous. Donc, les blancs qui ont un peu de glycérol et de puissance structurelle, comme ils n'entrent pas sur l'acidité, ça fonctionne très bien. Et ensuite, évidemment, là, vous pouvez faire des accords mésévins fondés sur la communauté aromatique. Moi, j'adore les produits de la chasse, les produits, les viandes, les petits gibiers à plumes, les choses comme ça, sur les vieux Châteauneuf blancs, c'est des accords merveilleux, surtout s'il y a une petite râpée de truffe blanche, mais là, on est vraiment en contexte étoilé, bien entendu. À la maison, on peut faire tout aussi efficace. Il faut voir les Châteauneuf blancs comme des grands blancs, il faut les voir comme les grands ermitages blancs. C'est texture, ampleur, grande profondeur de minéral. Et on peut aller chercher plein de reliefs. Donc là, on l'a vu tout à l'heure, le céleri, on peut voir le fenouil, des choses comme ça. Risotto de céleri, hein, vous taillez le céleri un peu comme du riz et vous faites un risotto avec. Mais ça fait un grand château neuf du pape blanc dessus, c'est fait des mariages vraiment merveilleux. Quel que soit l'accompagnement. Après, vous avez juste à choisir le poisson qui vous fera plaisir avec. Mais ça, c'est un petit accord que vous pourrez évidemment imaginer. Pour le rouge, évidemment, on appelle la chasse, la truffe, la tomate séchée, tout ce qui est un petit peu tomaté, les cuissons longues, les viandes un peu fondantes en cocotte, tout ça. Bref, tout ce qui évidemment anime un petit peu le cœur de vos dîners d'hiver. Je termine tranquillement en vous remerciant d'avoir été attentif comme ça. J'ai l'impression d'avoir fait un monologue de 60 minutes sur les vins à maturité, j'espère que je n'ai pas dit trop de bêtises, en tout cas pour vous. Je suis très heureux d'avoir pu partager ces vins avec vous. J'espère que ça a été le cas également pour cette dégustation. Merci. Merci.